Au 30 dimanche. Et si le vent se lève, ça montera encore plus haut.
Cette nuit encore, on a entendu les sirènes qui annoncent les inondations. Si le pire semble passer, les Vénitiens sont encore en alerte. Andréka à Venise, RFI.
Et ils font bien, puisqu'une alerte rouge a été émise pour ce samedi à Venise avec des risques de vent violent. On termine avec un mot de foot. Pour la première fois de son histoire, la Finlande jouera l'Euro grâce à sa victoire 3-0 hier contre le Liechtenstein. La Suède a, elle, décroché son ticket pour la 6e fois d'affilée en battant la Roumanie 2-0.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous avons choisi pour vous des extraits du 9e roman de Delphine de Vigan, paru au printemps 2019, Les Gratitudes. La romancière y met en scène une vieille dame, Mishka, au moment de son entrée en EHPAD. Elle met en exergue son rapport au temps, donc au vieillissement et à la mort, au travers des mots qui s'enfuient. Elle s'appuie sur sa relation avec Marie, jeune femme dont elle s'est jadis beaucoup occupée, et sur le lien qui la rattache désormais à Jérôme, son orthophoniste.
C'est venu d'un coup, du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de signes avant-coureurs. Parfois, Mishka s'arrêtait au milieu de son salon, désorientée, comme si elle ne savait plus par quoi commencer, comme si le rituel si souvent répété soudain lui échappait. D'autres fois, elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, elle butait, au sens propre, contre quelque chose d'invisible. Elle cherchait un mot et en rencontrait un autre, ou bien ne rencontrait rien, que le vide, un piège qu'il fallait contourner. Mais pendant tout ce temps, elle vivait seule chez elle, autonome. Et elle continuait de lire, de regarder la télévision, de recevoir quelques visites. Et puis, il y a eu ce jour d'automne que rien n'avait annoncé. Avant, ça allait. Après, ça n'allait plus. Je l'imagine dans son appartement au plafond bas. Elle est seule, assise dans son fauteuil. Derrière elle, les rideaux sont tirés, mais par l'interstice, on devine la lumière de l'après-midi. La peinture des murs est un peu jaunie. Les meubles, les tableaux, les bibelots sur les étagères, tout autour d'elle semble venu d'un temps lointain. Elle s'appelle Mishka. C'est une vieille dame aux allures de jeune fille, ou une jeune fille devenue vieille par inadvertance, victime d'un vilain sort. Ses mains longues et noueuses sont agrippées aux accoudoirs du fauteuil comme si elle risquait de chavirer. Soudain, plusieurs bips transpercent le silence. Mishka paraît surprise, cherche près d'elle, observe le bracelet qu'elle porte au poignet comme si les sons pouvaient provenir de cet objet étrange et laid qu'elle a fini par se laisser convaincre de porter. Puis la voix de l'opératrice de téléassistance s'élève dans la pièce. « Bonjour Madame Seld, ici Muriel de la téléassistance. Vous avez appuyé sur l'alarme ?»«
Oui. »«
Vous êtes tombée ?»«
Non, non. »«
Vous ne vous sentez pas bien ?»
Pas tellement.
Vous pouvez m'expliquer un petit peu?
J'ai peur.
Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes, Madame Seld?
Dans le salon.
Vous êtes blessée?
Non, mais je suis en train de perdre...
Vous avez perdu quelque chose? Mishka s'agrippe plus fort. Elle a la sensation que le fauteuil tangue sous son poids, à moins que ce soit le sol qui se dérobe. Elle ne répond pas. « Vous êtes assise ?»«
Oui, je suis dans mon fauteuil, mais je ne peux plus bouger. »«
Vous ne pouvez plus vous lever ?»«
Non. »«
Depuis quand vous êtes dans votre fauteuil, Madame Seld ?»«
Je ne sais pas. Depuis ce matin, je crois. Après le petit déjeuner, je me suis assise comme d'altitude pour mes mots croisés. » Mais je n'ai rien trouvé. Et puis après, je n'ai pas pu me relever. Je perds tout, c'est pour ça.
Qu'est-ce que vous avez perdu, Madame Seld?
Cela ne se voit pas, mais je le sens. Ça s'écharpe. Ça s'échappe.
Est-ce que vous pouvez bouger les jambes, Madame Seld?
Non. Non. Non, je ne peux plus. C'est fini. J'ai peur.
Vous ne pouvez vraiment pas vous lever?
Non.
Vous avez déjeuné ce midi?
Pas tellement.
Donc vous êtes dans votre fauteuil depuis ce matin et vous n'avez pas bougé?
Voilà, c'est ça.
Je vais appeler un de vos proches qui est sur la liste. Vous êtes d'accord?
Oui.
Je suis sûre que Mishk a entendu les doigts de l'opératrice glisser à toute vitesse sur le clavier. J'ai le nom de Mademoiselle Marie Chapier, je l'appelle?
Je ne sais pas.
C'est votre fille?
Non.
Souhaitez-vous que je l'appelle?
Oui, s'il vous plaît. Dites-lui que je ne voulais pas la démanger, mais c'est parce que je suis en train de perdre quelque chose d'important.
J'ai sonné un coup bref et j'ai mis aussitôt la clé dans la serrure. Je suis entrée dans la pièce et je l'ai trouvée là, cramponné à son fauteuil, comme s'il était maintenant emporté par le courant. Je me suis approchée d'elle et je l'ai embrassée. J'ai perçu le parfum sucré de sa laque, dont le pouvoir de réminiscence reste pour moi encore aujourd'hui intact. Ben alors, Mishk, qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. J'ai peur.
Je vais t'aider à te lever, d'accord?
Non, non, non.
Mais Mishk, je suis venue il y a 3 jours, tu marchais bien avec ta canne. Je suis sûre que tu peux te lever. J'ai passé mes bras autour d'elle pour l'aider à se mettre debout. Elle a pris appui sur les accoudoirs pour se donner de l'élan. Elle s'est retrouvée sur ses jambes, étonnée elle-même. Elle chancelait un peu, mais parvenait à maintenir la position. Tu vois?
Je t'ai raconté quand je suis tombée dans le salon.
Oui, Mishka, tu m'as raconté.
La bête la première.
Je lui ai tendu sa canne, puis je me suis placée de l'autre côté pour qu'elle puisse prendre mon bras. Allez! En route.
Attention, hein.
Tu dois mourir de faim. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine. Elle s'accrochait à moi et avançait à petits pas. Peu à peu, j'ai senti qu'elle reprenait confiance.
C'est pas si pire.
Mais à partir de ce jour, Mishka n'a plus été capable de rester seule. Le jour du rendez-vous est arrivé. Je suis là, à côté d'elle. Toutes les deux, face au bureau, nous attendons la directrice. Mishka est tendue comme s'il s'agissait d'un grand oral. « Ne t'inquiète pas, Mishk, ça va aller. C'est juste pour faire connaissance. »«
Tu es sûre qu'il ne faut pas passer un entretien de renseignement, montrer patte flanche, pour être acceptée ?»«
Mais non, tu vas voir. » Je la regarde et je lui souris. Son visage semble se détendre un peu. Elle en profite pour m'observer avec une perplexité surjouée.
Tu te coiffes?
Oui, Mishk, je me coiffe. Une femme entre dans le bureau. Elle est douce et avenante. Elle porte une tenue claire. La femme dépose un dossier devant elle. Elle s'adresse à Mishka. Si je comprends bien, Madame Seld, vous étiez autonome jusqu'il y a quelques semaines. Mishka acquiesce avec prudence, elle se méfie. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus du tout rester seule. D'après votre médecin, vous avez fait plusieurs chutes au cours des derniers mois, dont une qui a nécessité une courte hospitalisation. Vous avez des vertiges, ce qui explique en partie vos craintes et votre difficulté à vous déplacer quand vous êtes chez vous. Mishka approuve d'un léger mouvement du menton. La dame continue de parcourir le dossier. Vous sortez dans la rue ?
Un peu, avec Marie, une fois par semaine. Avant, je faisais des tours de balcon chez moi, mais maintenant, je n'y arrive plus.
Des tours de balcon?
Oui, de long en charge, comme les prisonniers. 10 longueurs et même parfois 20 quand j'étais en forme. Chaque longueur vaut 10 pas, plus 2 dans la largeur, ça fait 12. Je vous laisse faire l'escompte.
La directrice observe Mishka. Elle cherche à évaluer quelle est la part d'autodérision dans son propos. Mais il n'y en a pas. Mishka est fière. 120 pas par jour, ce n'est pas rien. Elle me regarde comme on passe le relais. C'est à moi de continuer. Quand je viens, on essaye toujours de faire une balade dehors. Mais Mishka est de plus en plus craintive à cause des chutes et de tout ce qui se passe autour. Ça va trop vite pour elle, les enfants, les gens pressés. Vous avez envisagé le maintien à domicile? Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est d'avoir quelqu'un jour et nuit. Mishka ne peut plus rester seule, plus du tout. Elle a peur. Mishka précise.
La nuit, il y a les cauchemars.
J'ai pensé qu'elle pourrait s'installer chez moi, mais elle ne veut pas en entendre parler.
Ah non, c'est au 6e étage sans défenseur. Et puis, il n'y a aucune raison que Marie s'occupe de moi.
La directrice m'interroge du regard. Mais moi, je regarde Mishka et je veux qu'elle me regarde aussi. J'attends que ses yeux délavés se hissent à ma hauteur et fassent le point sur mon visage. Si, Mishka, justement, il y a pas mal de raisons.
Non, c'est hors de gestion. Les vieux, tu sais, ça pèse lourd. Ça ne va pas s'arranger. Je sais très bien comment ça se casse, tu peux me croire.
La directrice nous observe toutes les deux, puis s'adresse à moi. Donc pour l'instant, c'est vous qui êtes installée chez Madame Selde. Oui, en tout cas la nuit. Dans la journée, j'ai trouvé quelqu'un qui prend le relais quand je suis au travail. Je vous appellerai dès qu'une place se libère. Nous sommes en lien avec le médecin traitant qui a appuyé la demande. Cela devrait pouvoir se faire rapidement, mais je ne peux pas vous donner de délai. Cela dépend des départs. La directrice se lève. Mishka me regarde, attendant mon signal. Je l'aide à se mettre debout et à attraper sa canne. À petits pas, nous sortons de la pièce. Elle tire derrière elle la porte de son appartement. Cette porte qu'elle a fermée des centaines de fois. Mais aujourd'hui, elle sait que c'est la dernière. Elle tient à tourner elle-même la clé dans la serrure. Elle sait qu'elle ne reviendra plus. Elle n'accomplira plus jamais ces gestes qu'elle a répétés des centaines de fois. Allumer la télévision, lisser le couvre-lit, laver la poêle, baisser les stores à cause du soleil, accrocher sa robe de chambre à la patère de la salle de bain, taper sur les coussins du canapé pour qu'ils reprennent une forme qu'ils ont perdue depuis longtemps. Elle a donné les meubles, le lit, le magnétoscope, les casseroles, le grille-pain. Elle a gardé quelques livres, les albums photos, une trentaine de lettres, les papiers que l'administration interdit de jeter. Mais en réalité, elle le sait, elle a largué les amarres.
J'ai frappé plusieurs fois, mais elle ne m'a pas entendu. Elle est seule dans sa chambre. Elle cherche quelque chose. Elle ouvre à plusieurs reprises le placard, puis les tiroirs de son bureau. Elle soulève les revues posées sur la table de nuit. Elle semble désemparée. Elle recommence les mêmes gestes. Placard, tiroir, table de nuit. Elle regarde autour d'elle. Elle cherche où chercher. Soudain, elle pose sa canne sur le lit, puis prend appui sur le matelas pour se mettre à genoux. Elle veut regarder en dessous. La position semble douloureuse, alors elle s'allonge à plat ventre, la tête sous le lit. C'est ainsi que je la rencontre pour la première fois. « Bonjour, Madame Selde, je suis Jérôme, l'orthophoniste. » Elle manque de se cogner au sommier. Je m'approche d'elle pour l'aider à se relever. « Je vais vous aider. » Ce n'est pas si simple, compte tenu de la position hardie dans laquelle elle se trouve maintenant. La moitié du corps sous le lit, l'autre moitié en dehors. Restez allongée, Madame Seld. Oui, comme ça, voilà. Les bras aussi. Je vais me permettre de vous tirer un peu vers moi pour que vous puissiez vous relever. Ne bougez pas. Attention, je tire un peu. Hop, voilà. Attention, ne relevez pas la tête. Je tire encore un peu. Voilà, ça y est. Avec difficulté, tout en restant allongée, elle bascule sur le côté pour me voir.
Ah, bonjour.
Elle me serre la main comme si tout cela était parfaitement naturel. Elle, étendue sur le lino, incapable de se relever seule, et moi, accroupi à côté d'elle. En un dixième de seconde, elle me scanne. Son œil frétille. Je l'aide à s'asseoir, puis à se mettre debout. Ça prend un peu de temps. Ses gestes sont prudents. Les miens aussi. Elle me fait signe de lui donner sa canne. Je m'exécute. Puis elle me sourit avec un petit air coupable.
« Appelez-moi, Mishka. »«
Avec plaisir. »«
Madame Seld par-ci, Madame Seld par-là. C'est triste, vous savez, de vivre avec des gens qui ne vous appellent jamais par votre prénom. »
Sa vivacité me surprend. « Je comprends. Je vous appellerai Mishka, promis. » Vous cherchiez quelque chose ?
Oui, c'est parce que je perds beaucoup. Ça va vite. Je sens presque tout le temps que je perds quelque chose, mais je ne trouve pas et ça me fait peur. Je voudrais vous dire plus, mais ça m'empêche, vous voyez.
J'ai lu dans votre dossier que vous souffrez d'un début d'aphasie. Le médecin a dû vous expliquer. Ça signifie que vous avez du mal à trouver vos mots. Parfois, ils ne viennent pas du tout, et parfois, vous les remplacez par d'autres. Cela varie aussi selon les moments, l'émotion, la fatigue.
Ah bon ? Si vous le dites.
C'est peut-être les mots que vous cherchiez, Mishka.
Oui, c'est possible.
Moi, je suis orthophoniste, vous savez ce que c'est ?
Oui, tout de même. J'ai été correctrice dans un grand magasin. Pendant des années.
Formidable. On va pouvoir bien travailler tous les deux. Vous allez voir. On va faire des exercices, des devinettes, des choses comme ça. Elle m'observe. Sans gêne, elle me détaille des pieds à la tête et de la tête aux pieds, comme s'il s'agissait de décider sur le champ de mon admission, ou non, dans son emploi du temps. Puis elle conclut, exactement sur le ton qu'elle emploierait pour me dire... D'accord.
D'abord.
Je ne peux pas m'empêcher de rire. Alors elle rit aussi. Pendant quelques secondes, nous rions pour le plaisir de rire. Et puis le rire s'éteint.
Où cela se passe-t-il ?
Quoi donc ?
Les jeux ?
Ça se passe dans votre chambre, Madame Mishka. Je viendrai une ou deux fois par semaine, le mardi et le jeudi.
Ah oui, dans ma chambre, c'est très bien.
Pendant quelques secondes, elle est songeuse.
Je vous ai dit que je fais des cauchemars ?
Non, vous ne me l'avez pas dit.
Je pourrais vous les raconter quand vous viendrez ?
Oui, avec plaisir. Alors, à demain ? C'est mardi, demain.
Oui, c'est bien.
Quand je les rencontre pour la première fois, c'est toujours la même image que je cherche, celle de l'avant. Derrière leurs regards flous, leurs gestes incertains, leurs silhouettes courbées ou pliées en deux, comme on tenterait de deviner, sous un dessin au vilain feutre, une esquisse originelle, je cherche le jeune homme ou la jeune femme qu'ils ont été. Je les observe et je me dis « Elle aussi, lui aussi, a aimé, crié, joui, plongé, couru à s'en perdre haleine, monté des escaliers 4 à 4, dansé toute la nuit. Elle aussi, lui aussi, a pris des trains, des métros, marché dans la campagne, la montagne, bu du vin, fait la grasse matinée, discuté à bâton rompu. Cela m'émeut de penser à ça. Je ne peux pas m'empêcher de traquer cette image, de tenter de la ressusciter. J'aime voir des photos d'eux quand ils fixaient l'objectif, sans avoir la moindre idée des dommages qu'ils allaient subir, ou quand cette idée n'était que pure théorie. Quand il se tenait droit et n'avait pas besoin d'appui. J'aime les découvrir dans la force de l'âge. Mais à quel âge est-on le plus fort? 20 ans? 30 ans? 40? Parfois, il est impossible de faire le lien entre la jeune femme ou le jeune homme de la photo et la personne assise en face de moi. Même avec la plus grande acuité, le plus grand discernement, non, rien ne semble relier ces deux corps. Le corps léger, arrogant de la jeunesse et le corps déformé, diminué de la maison de retraite. Je me penche sur les clichés et je dis « On vous reconnaît tout à fait, Madame Hermon. » Ou bien « Quel bel homme vous étiez, Monsieur Tertian. » Au début, une voix hurlait dans ma tête. « Mais enfin, que s'est-il passé? Comment est-ce possible? Est-ce vraiment ce qui nous attend tous, sans exception? N'y a-t-il pas une déviation, un embranchement, un itinéraire bis qui permettrait d'échapper au désastre? » Au début, je travaillais avec différents publics, les enfants, les adultes, les vieux. Puis, peu à peu, l'essentiel de mes journées s'est concentré dans les EHPAD. Je ne peux pas dire que cela ait été une décision, ni un choix. Ça s'est fait, voilà. Des opportunités et une sorte d'évidence. À présent, je répartis mon temps entre plusieurs établissements. J'ai mon secteur. Je me sens bien. C'est là que je dois être. J'aime les regarder comme ils luttent pied à pied. J'aime leur voix qui tâtonne, qui grelotte, qui hésite. Je les enregistre. Oui, c'est vrai. Pas tous, mais certains, oui. Dès la première fois. J'ai un appareil numérique, minuscule, qui contient des dizaines de fichiers regroupés par dossier. Je les enregistre à des fins d'études pour améliorer mon approche, ma pratique, mais pas seulement. Je chéris le tremblement de leur voix, cette fragilité, cette douceur. Je chéris leurs mots travestis, approximatifs, égarés, et leur silence. Et je conserve tout, même lorsqu'ils sont morts. Madame Selt, je l'ai enregistrée à partir de la 5e ou 6e séance. J'ai tout gardé.
Depuis quelques semaines, elle reste assise comme ça dans sa chambre, sans lire ni regarder la télévision. Elle somnole. Je frappe à sa porte et j'attends son signal pour entrer.
C'est toi ?
Oui, Mishk, c'est moi. Comment ça va ?
Oh, ça va, ça va. Je ne savais pas que tu venais. J'avais marqué demain. Mais je ne sais pas pourquoi je n'étais pas si sérieuse.
Tu n'étais pas sûre ? C'est normal, je t'avais dit vendredi ou samedi. Tu n'es pas trop fatiguée ?
Non, ça va. De ce côté-là, c'est pas le dilemme.
De quel côté ça ne va pas alors ?
C'est les mots qui m'échoppent. M'écharpent. Tu vois ?
Je sais, Mishka. Mais bon, il t'en reste pas mal en stock. Et puis comme ça, tu en inventes de nouveaux. L'orthophoniste est venu te voir ?
Oui, oui. Mais c'est... Ce n'est pas ça. Les exercices, c'est diffus. C'est difficile, tu veux voir ?
Elle me tend un papier avec des mots et des dessins. Tu dois deviner les contraires ?
Non, les synonymes.
Les synonymes ?
C'est ça, mais je m'en fous des trucs. Tu comprends, c'est le vrai mot qui se débraille. Et puis ça ne sert à rien tout ça. Je sais très bien comment ça va finir. À la fin, il n'y aura plus rien, plus de mots, tu comprends ? Ou bien alors n'importe quoi pour remplir le vide. Tu imagines un monospace, un monoglotte de vieille peau toute solifère.
On n'en est pas là.
On n'en est pas loin, crois-moi. La fin, c'est dans pas longtemps, Marie, tu sais. Je veux dire, la fin sans la tête, perdue, pfft, avec tous les mots envolés. La fin du corps, on ne sait pas, bien sûr, mais la fin sans la tête... Ça a commencé. Les mots se font la balle et puis hop.
Mais non, Mishka, tu vas à l'atelier mémoire ?
J'aime pas. Je préfère quand c'est le garçon qui vient. Il est très beau, tu sais, tu devrais le voir.
Mais l'un n'empêche pas l'autre, Mishka. L'orthophoniste vient deux fois par semaine dans ta chambre, mais toi tu peux aller en bas à l'atelier mémoire le mercredi avec les autres. Tu as déjà essayé ?
J'aime pas. Il y en a une qui répond à tout comme ça, du tic au tic. Pas une seconde d'hésitation. À brûle pour point, elle dit la bonne réponse. Elle connaît tous les mots possibles et imaginaux. Elle fait la fière, tu vois, ça me t'agace. Pourquoi elle vient si elle sait déjà tout ? En plus, elle pourrait s'habiller. Eh ben non, même pas. Elle passe sa vie dans une robe des champs comme si c'était du plus grand choc, tu vois ?
Elle se sent peut-être plus à l'aise comme ça.
Oui, mais bon, un peu de clémence ne nuit pas. Pourquoi tu ris ? Au moins si ça te fait rire. Mais tu sais, tu as mieux à faire, franchement. Tu ne devrais pas venir si souvent. Tu vas t'ennuyer.
Écoute, Mishka, on en a déjà parlé. Je viens parce que ça me fait plaisir.
Tu perds ton temps. En plus, pour me voir dans cet étau, dans cet étalage, ça ne sert à rien, tu sais.
Écoute, toi, tu es venu me voir quand j'étais à l'hôpital, oui ou non ? Tu t'en souviens ?
Oui, je m'en souviens. Quand tu étais malade, tu étais si... On aurait dit...
Un instant, elle plonge dans ses pensées.
Tu sais que tu as failli mourir ?
Je sais, Mishka. Eh bien, quand j'ai passé des jours et des jours dans une petite chambre, tu es venu me voir un certain nombre de fois, non ? Elle acquiesce. Alors je peux bien venir te voir ici quand je veux. Elle me sourit.
Et toi, tu me racontes rien. Comment ça va pour toi ?
Ça va, tout va bien.
Ton travail ?
Ça va, ça se passe bien. Je commence à gérer des dossiers toute seule, c'est très intéressant.
Ça ne te fait pas trop loin ?
Non, ça va. Avec le RER, c'est rapide en fait.
Tu fais attention à toi ?
Oui, oui, ne t'inquiète pas. Elle m'observe un instant.
Tu t'es coiffée ?
Oui, Mishk, je me suis coiffée.
Tu as une petite mine. Palichotte. Tu manges bien ?
Oui, oui, ça va.
Tu sais qu'on a une nouvelle résistante à notre table à la cantine, je te l'ai dit ?
Une résidente ?
Oui. Elle parle tout le temps. Alors moi, je fais semblant que je suis gourde de cette oreille, comme ça je ne suis pas obligée de lui répondre. Tout le temps, tu ne peux même pas imaginer. Dans un flot contigu. Elle parle, ça ne la gêne pas du tout, comme s'il n'y avait qu'elle dans le monde. Alors Armande et moi, tu sais Armande, celle que j'aime bien, on fait comme ça.
Pendant quelques secondes, elle mime quelqu'un de très absorbé, qui mange et n'entend pas qu'on lui parle. Et ça marche ?
C'est des histoires de vieilles, ça tu vois. Toi Marie, tu devrais me le dire. Attention Mishka, tu racontes des histoires de vieilles. Je ne veux pas que tu penses que je me plainte, mais ça me fait du bien de m'épandre. Je ne suis pas si mal, tu sais, les gens sont très gentils, mais je préférais chez moi.
Je sais, Mishka, mais tu ne pouvais plus rester chez toi, tu te souviens ?
Oui, je me souviens.
Les jours où Mishka attend une visite, elle s'habille bien. Elle choisit son pull bleu ciel qui fait ressortir la couleur de ses yeux, ou bien elle met sa veste beige assortie à son pantalon. Je l'appelle toujours avant de venir, la veille de préférence pour qu'elle ait le temps de se préparer. Je frappe avant d'entrer. Je l'embrasse.
Tu ne devrais pas venir, ça t'embête. Et puis, tu devrais te reposer.
On en a déjà parlé, Mishka. Je viens parce que ça me fait plaisir. Comment tu te sens ?
Ça va, ça va. Mais je ne sais pas trop ce qui se passe.
C'est-à-dire ?
Ici, ça n'est plus du tout comme avant. Le niveau baisse, tu sais. Les résignants, il y en a deux qui sont morts.
Des résidents ?
Oui, deux dans une même semaine. Madame Crespin, c'est elle qui recevait des colis avec des bâtons secs. Eh bien... Dans la nuit, pfit, comme ça.
Ça t'a fait de la peine ? Tu l'aimais bien, Madame Crespin ?
Oui. Mais tu sais, on est des vieilles. Je te l'ai déjà dit, il faut être réalistique. Au bout d'un moment, ça ne peut plus durer. Ça commence à bien faire, même. Ce n'est pas triste, mais ça fait peur.
Et l'autre dame, tu la connaissais ?
Non, elle était au quatrième. Au quatrième stage chez les... Ils ne sont pas flous, tu sais, mais ils sont comme des fantômes qui préambulent la nuit. Alors il faut les fermer. Mais tu sais, ici, ce n'est plus comme avant. Surtout le soir, quand ils font la ronde.
Quelle ronde, Mishka ?
Quand tous les résignants sont dans leur chambre. Ils tournent pour donner les... Et puis aussi le matin. Je sais bien ce que ça veut dire.
Tu t'inquiètes pour rien. Je t'ai expliqué, c'est normal que les aides-soignantes fassent un petit tour pour voir si tout va bien.
Je n'aime pas la nuit.
Tu ne dors pas bien ?
C'est à cause des mots, je t'ai dit. C'est la nuit que ça se perd quand je n'arrive pas à m'endormir. Je sais bien que c'est à ce moment-là qu'ils s'enfouillent, qu'ils s'enfuient. J'en suis sûre, mais il n'y a rien à faire. Des wagons entiers à grande vitesse, rien à faire contre ça. Je peux te le dire, même l'ornitho,
l'orthophoniste ?
Oui, il me l'a dit. Les esquisses, ça ne sert plus à rien quand on arrive à mon point.
Tu exagères. Je suis sûre qu'il n'a pas dit ça. C'est parce que tu n'aimes pas les exercices.
C'est crevant. Après, tu devrais me voir à ramasser à la chaudière. C'est triste, tu sais.
Pendant quelques secondes, elle se perd dans ses pensées.
Il ne faudrait pas vieillir. Mais bon, ça tombe bien que tu sois là. Je voulais te dire que j'ai réfléchi. Je préférerais une abréviation.
Comment ça ?
Pour mes obstacles. Une abréviation. Quelques petits sandwichs et on n'en parle plus. Comme Madame Crespin, il paraît que c'était très sympathique.
Tu veux dire une incinération ?
C'est ça. Mais au saumon, les sandwichs, pas au pâté.
Au saumon ? Oui, bon. Ok, c'est noté. Mais il n'y a pas d'urgence, tu sais. On n'est pas pressé.
Je n'ai pas pu y aller pour Madame Crespin. Ils avaient prévu un wagon pour y aller tous ensemble. Mais j'étais trop fatiguée.
Je comprends, Mishk, c'est normal. Il faut te reposer.
Elle m'attend dans le fauteuil. Elle ne fait rien en m'attendant. Elle ne fait pas semblant de lire, de tricoter ou d'être occupée. Ici, attendre est une occupation à part entière. Quand j'entre dans sa chambre, je lui serre la main, puis je prends de ses nouvelles. Elle me propose un verre d'eau ou un jus de fruits, s'il lui reste une petite brique du goûter. Elle tient à m'offrir un chocolat ou un bonbon, une manière de me rendre quelque chose, je le sais. Nous avons nos rituels. Elle aime ce moment où je déclenche la fonction enregistrement de mon appareil numérique et où commence notre séance, toujours plus ou moins par les mêmes mots. Nous sommes le 5 septembre. J'enregistre, avec son accord, la 20e séance de Madame Seld. Vous aimez les proverbes, Mishka ? Elle fait la moue. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour stimuler votre mémoire et vous aider aussi à entretenir votre vocabulaire.
On va voir.
Oui, vous allez voir. C'est très ludique. Je vous donne le début d'un proverbe et vous devez trouver la fin. On démarre par quelque chose de facile. Il vous suffit de deviner le dernier mot pour compléter le proverbe. D'accord ? Elle acquiesce, sans enthousiasme. À chaque jour suffit sa...
chaîne ?
Vous êtes sûr ? Je vous le redis. À chaque jour suffit sa...
pleine.
Sa peine, Mishka. Vous y étiez presque. Les absents ont toujours...
fort. Tort.
Très bien. Il n'y a pas de fumée sans...
feu.
Oh, la vérité est au fond d'un...
champ.
Elle réfléchit.
Volcan.
Elle me regarde à présent d'un air contrarié.
Je ne connais pas celui-là.
La vérité est au fond d'un puits. Ça ne vous dit rien ?
Rien du tout.
Un autre. Faut avouer est à moitié...
Ah, alors vous y êtes allé ?
Où ?
Voir votre père.
Je n'ai pas dit que j'irais, Mishka, j'ai dit que je réfléchirais.
Vous avez réfléchi ?
J'y réfléchis, oui, mais cela prend du temps. Cela ne se décide pas comme ça, c'est risqué. C'est compliqué, vous savez. Allez, n'en profitez pas pour vous déconcentrer. Encore un. Avoir d'autres chats à...
Cela me fait peur pour vous. Les regrets.
Je sais, Mishka. Moi aussi, ça me fait peur. Mais parfois, on n'a pas le choix. C'est une question de protection.
Mais vous êtes bolide maintenant, non ?
L'infirmier entre dans sa chambre à point nommé. Je n'interromps pas l'enregistrement. Il lui parle très fort, très distinctement, comme à une enfant. Mishka ne paraît pas s'en formaliser. Vous vouliez me voir, Madame Seld ? Il paraît que vous me cherchiez ce matin.
Ah oui. Est-ce que vous pourriez me mettre quelque chose qui soit plus substantiel dans mon... Du soir, les piles,
Les pommades ?
Non, non. Ce sont des toutes petites choses comme ça. On en met par-ci, par-là, deux ou trois.
Les pilules ?
Oui.
Vous me parlez de votre traitement, là, Madame Seld. Vous avez une gélule qu'on vous donne à 18h, et puis le soir, un peu plus tard, on vous en donne une autre.
Comment ça s'appelle ?
À 18h, cela s'appelle oméprazole, et à 22h, ça s'appelle mianserine.
Quel est le plus noctif ?
Ils ne font pas la même chose. Celui de 22h, c'est pour passer une bonne nuit. Et celui de 18h, c'est pour ne pas avoir mal au ventre.
Ah. Alors, mettez-moi à 22h.
Il faut voir ça avec votre médecin traitant. Vous voulez qu'on avance, celui de 22h?
Oui.
Vous n'arrivez pas à dormir, c'est ça?
C'est beaucoup dire, mais c'est un peu dire.
On va demander à votre médecin. Vous êtes agité le soir, il paraît.
Oh, pas si tant.
Alors il se tourne vers moi, me prenant à témoin. Avec Monsieur Terdian, figurez-vous qu'ils gardaient des couteaux dans leur chambre pour trafiquer les fenêtres. Puis il s'adresse de nouveau à elle, beaucoup plus fort. On ne peut pas vous laisser les couteaux dans votre chambre, Madame Seld, vous avez compris ? Elle le prend un peu de haut.
Oui, j'ai très bien compris, monsieur. Mais bon, ça ne mange pas de chien, on peut bien ouvrir la fenêtre, on ne va pas s'évapoler.
Pour le traitement, je vais en parler avec la directrice. Elle va voir ça avec votre médecin traitant. Je vous laisse, Madame Seld. Il part. Ses chaussures font un bruit de ventouse sur le lino. Mishka me regarde.
Il est gentil, vous savez. Il a l'air un peu tartare comme ça, mais il est très gentil.
Je n'en doute pas, Mishka. On reprend notre petit exercice. Ses épaules s'affaissent soudain et elle soupire avec ostentation. Je ris. Elle rit aussi. Qui peut le plus, peut le...
Je vous ai dit que Marie était enceinte.
Enceinte, oui, vous me l'avez dit la semaine dernière.
Elle va garder le bébé, toute seule, vous savez.
Ça vous tracasse ?
Pas si tant, mais un peu quand même. Ce roman touche avec délicatesse à des sujets graves, sans jamais se départir de l'humour et de la bienveillance. Outre les relations entre les trois personnages principaux, il peut nous faire réfléchir à la place laissée aux personnes âgées dans notre société et à la façon dont on prend soin ou non d'elles.
Nous vous encourageons vivement à aller à la rencontre de Mishka, Jérôme et Marie. Cette lecture a été préparée et faite par Marie, Yvan et Guylaine. L'enregistrement et le montage en ont été assurés par Yvan.
Au cours des pauses musicales, vous avez entendu des extraits des suites pour violoncelle de Bach, interprétées par Jean-Guilhem Queyras.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires,